Prie avec moi. Seigneur Dieu, nous venons à ta parole maintenant. Par ta parole, tu as ordonné le monde, la sortie du chaos pour le rendre merveilleux et beau. Par ta parole, tu as béni la vie, tu nous as bénis et rendu capables de régner, de cultiver, d'être en communion. Par ta parole aussi, tu nous as pardonné du mal. Par ta parole, Seigneur, tu nous guides, tu nous instruis. Nous venons à elle, source de vie, pour être transformés par toi. Que ton esprit soit puissamment à l'œuvre. Amen. Ce matin, je voulais continuer dans l'esprit de la prédication que j'ai faite il y a deux dimanches. On avait vu comment que Jésus, quand il a commencé son ministère public, y prêchait aux foules « Le royaume des cieux est proche, changez de vie à cause de cela ». On avait vu aussi là où est Jésus, là est le royaume. Et on avait terminé en voyant que Christ est retourné dans les cieux, mais qu'il a envoyé son esprit sur nous et qu'il nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et que donc là où nous sommes, le règne des cieux vient aussi. C'est pourquoi nous sommes encore aujourd'hui invités à changer de vie et à inviter ceux qui nous entourent à changer de vie également et à participer à ce règne de Christ, certes invisible et pourtant bien réel. Nous vivons pour le royaume qui vient et non pour le royaume qui est. Et je voulais ce matin continuer à nous encourager dans cet élan, dans cette perspective. Nous vivons dans un monde en stress. Nous habitons une civilisation qui a choisi de mesurer sa valeur grâce à la performance, la croissance, la productivité, la rentabilité. Beaucoup d'entre nous n'auront aucune peine à dire « Qu'est-ce qu'on manque de temps ?» La semaine est trop courte. Beaucoup ne ressentent qu'à peine la coupure entre la semaine de travail et la nouvelle semaine de travail, tellement le week-end est chargé. Les activités s'enchaînent, les soucis aussi, l'agenda se remplit. Et parmi nous aussi, il y en a qui, à l'inverse, ont du temps à remplir. D'aucuns verront leur journée s'écouler lentement, parfois avec ennui, parfois seuls. Ce sont souvent nos aînés. D'autres ont aussi du temps à remplir, parce qu'ils ne savent pas le faire tout seuls. Alors, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils courent après les choses à faire. Vous avez reconnu, ce sont les plus petits, les enfants. Il nous faut bien caser ici ou là pendant que les grands iront travailler. Et entre les deux, se trouve la grande masse des actifs qui courent après le temps. On pourrait croire qu'il y a un lien entre l'impression d'avoir du temps et le fait de ne servir à rien au système. Nos enfants ne sont pas encore prêts à participer au système. Et vous, chers aînés, vous êtes trop vieux pour y participer. Alors vous avez du temps. Puis nous, au milieu, nous sommes ceux qui sont pleins de vie, de force, et là, alors là, on doit être utile à la société économique. Donc nous vivons bien dans une société qui est centrée sur l'activité qui génère de l'argent et du service et du bien. Et on a trouvé la solution, puisque maintenant, s'occuper des enfants et s'occuper de nos aînés, c'est devenu des métiers à plein temps. Tant qu'à faire. Pour permettre à d'autres de poursuivre leurs activités économiques. Nous sommes dans un monde régi par l'argent, je ne vous apprends rien, depuis longtemps. Si longtemps qu'il serait presque difficile d'imaginer comment est-ce que nous pourrions vivre autrement. Comment s'extraire de ce torrent sans se noyer? Comment ramer à contre-courant sans être fracassé sur des rochers? Je vous invite à lire un premier texte dans l'Évangile de Luc. Évangile de Luc, au chapitre 10. Luc 10. Les versets 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, il, Jésus, entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis de service. Et elle survint auprès du Seigneur et dit, « Seigneur, ne te mets-tu pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Marthe et Marie, deux sœurs passionnées de Jésus, qui je pense le connaissent bien, on sent dans ce texte une certaine familiarité entre eux. L'enseignement de Jésus ici s'inscrit dans un événement banal de la culture de l'époque. Jésus et ses copains débarquent un peu spontanément chez les deux sœurs. L'une, Marthe, se décarcasse pour exercer l'hospitalité au mieux de ce qu'on peut attendre dans ces circonstances. Elle toupine entre servir l'apéro, préparer le repas, en ayant offert aux convives de quoi se décrasser les pieds, et de la poussière du voyage. Et puis Marie, j'imagine que c'est la petite sœur, mais peut-être pas, s'installe au pied de Jésus et écoute. Et tout va bien jusqu'à ce que Marthe explose intérieurement de la situation et ose interpeller Jésus en espérant qu'il reprenne la petite sœur qui visiblement plane un peu sans percuter que quand même on est dans le jus là et que ça serait bien qu'elle se bouge un peu pour les inviter. Je bénis l'esprit d'avoir inspirer les auteurs des évangiles de nous rapporter cette histoire car ça sent trop l'anecdote, enfin, et pourtant c'est tellement profond. Et Jésus, il me semble, reprend la sœur aînée avec douceur, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Quand Jésus est là, tout le reste devient secondaire. Quand Jésus est là, tout le reste devient secondaire. On avait déjà vu que quand Jésus est là, le royaume des cieux est là aussi. Maintenant, quand Jésus est là, les priorités de nos vies doivent changer. Christ est présent. Christ est présent. Oh, quelle chance, quelle grâce, quelle faveur, quelle occasion incroyable. Une rencontre à ne pas manquer. Marthe se jette à corps perdu dans le travail pour répondre aux exigences de la politesse, de l'hospitalité, de la bienséance selon les mœurs de l'époque. Bref, une performance. Or, la rencontre avec le Seigneur doit être plus importante, elle doit être plus importante que le repas, que le vin, que la réception des convives. Le Seigneur n'est pas venu pour manger des petits fours, des croustilles au fromage, ni pour boire un Perrier citron. Peut-être qu'il aime beaucoup ça. Mais il est venu rencontrer Marthe et Marie. Leur apporter le royaume. Les croustilles et le Perrier sont plus que secondaires. Ils sont optionnels. Voire, ils peuvent devenir un obstacle à la rencontre. Si, si. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà profondément mal vécu une rencontre, un accueil d'invités, parce que vous étiez captif de l'impression de mal les recevoir. C'était pas propre. Oh ! Ils ont débarqué, il y avait une lessive que j'étais en train de trier sur la table, où les vitres n'étaient pas faites, et il y a 2 jours, il avait plu. T'avais... Bon, bref, je n'ai rien à leur offrir. J'ai de l'eau fraîche. Voilà. Et... nous répondons à des injonctions d'éducation, de politesse, de bienséance. On a tous reçu, en oubliant que dans une rencontre, ce qui doit être d'abord et avant tout offert, c'est notre présence, notre écoute, notre attention, notre bienveillance. Quand Jésus vient, le reste devient secondaire. Jésus vient dans le monde, il s'incarne, il prend chair, Dieu fait homme pour rencontrer son peuple. Tant pis pour les croustilles. Mais il est où Jésus aujourd'hui ? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. Jésus est en nous. Je vous rappelle les paroles de Paul. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, comme si Dieu, à travers nous, appelait en criant « Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec nous, à Dieu, nous faisons office d'ambassadeur, tout ça, tout ça. » Jésus est en nous, ne sommes-nous pas appelés à poursuivre son chemin, son œuvre de rencontre avec ceux qui sont dans les ténèbres, en faisant le don de notre présence. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, Jésus envoie 70 disciples annoncer le royaume. Il leur dit ceci. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. J'aimerais trop qu'on le fasse vraiment. Vous êtes invité chez quelqu'un, vous arrivez. Attends, avant de rentrer, que la paix soit sur cette maison. Et après, tu rentres. Non, franchement. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Et un peu plus loin, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Lorsque vous visitez quelqu'un, le Christ est avec vous. Lorsque vous recevez quelqu'un chez vous, le Christ est là aussi. Et rappelons-le, on l'a vu il y a 2 semaines, la vie, c'est plus que la nourriture. Je vous encourage profondément et puissamment à méditer sur cela. Lorsqu'on observe nos enfants ou lorsqu'on visite nos aînés, nous voyons bien que l'essentiel n'est pas dans les choses, mais dans la relation. Et qui plus est dans une relation gratuite, réciproque. Comme le Christ entre en relation avec chacun d'entre nous terriblement gratuitement. Ce qui nous conduit à lire un deuxième texte. Et je suis content parce que l'Esprit fait bien les choses. 1 Pierre 1, 14 à 19. Je dis ça parce que Philippe l'a utilisé dans sa liturgie. C'est chouette. 1 Pierre, premier épître de Pierre, au tout début. À partir du verset 14. Obéissez à Dieu. Alors, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit : vous serez saint, car je suis saint. Et si vous invoquez le Père, non, pardon, si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez, en effet, que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'argent ou l'or que vous avez été délivrés, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Pierre aussi nous appelle à un changement de valeur ici, ne plus nous conformer aux mauvais désirs qui nous habitaient avant qu'on rencontre le Christ. Alors, des fois, on n'a pas trop de souvenirs d'une vie sans Christ, hein, Pierre ? C'est quand même, non, j'ai jamais pas cru en Jésus. Comment je fais ? Compliqué. Et Pierre pointe du doigt adroitement le changement de valeur que nous devons opérer dans nos vies. Il dit, et Philippe l'a cité, « Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre de vos ancêtres, que vos ancêtres vous avaient transmise et qui ne mène à rien. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'or ou l'argent, non. » Vous avez été délivrés par le sang précieux de Christ comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Qu'est-ce qui vous a sauvé ? Du fric ? Qu'est-ce qui vous a sauvé ? Qu'est-ce qui nous a sauvés ? Qu'est-ce qui a fait un changement dans notre vie ? Plus d'argent ? Non ? Jésus, la vie de Jésus, le sang de Jésus. Vous n'avez jamais touché le sang de Jésus, vous n'avez jamais goûté le sang de Jésus, mais c'est une façon de dire que c'est sa vie en vous qui vous sauve. Ce qui nous sauve, ce n'est pas l'argent. Ce qui nous sauve, ce ne sont pas les choses. Les choses. Et si vous êtes disciple de Jésus, vous l'avez déjà expérimenté en partie. C'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui vous a sauvé. Une rencontre personnelle. Incroyable. Oui, je connais Jésus. Avant, tu bois des cafés avec lui, tu discutes. Je ne peux pas l'expliquer, c'est une communion avec l'Esprit. Je connais Jésus. C'est une rencontre. Si c'est une rencontre qui vous a sauvé, qui vous accorde l'espérance de la vie éternelle, qu'est-ce qui pourrait bien faire fructifier ce que vous avez reçu ? Hein ? Si c'est une rencontre qui vous a accordé cette espérance, cette joie, cette confiance dans le pardon de Dieu, etc., cette grâce qui vous apprend à fuir l'inconduite, qu'est-ce qui pourrait continuer de faire fructifier ce que vous avez reçu ? Ne serait-ce pas d'autres rencontres ? Plutôt que de l'argent, des choses à faire. Nous étions asservis à ce monde. Nous avons été élevés, conditionnés, conformés pour participer à ce monde. Hélas, ou pas hélas en fait, non, heureusement, ce n'est pas une solution économique qui nous accorde l'espérance et la foi, c'est une rencontre personnelle. Or, le Christ demeure maintenant en vous, si vous êtes à lui. C'est donc par vous qu'il viendra à la rencontre d'autres femmes et d'autres hommes, et que eux aussi seront enrichis ou peut-être même convertis. Soyons saints comme Dieu est saint, mis à part dans un but spécial, vivre dans ce monde comme des porteurs de Christ. Et pour vivre cette sainteté, refusons que cette matérialité, cette monétisation de toute activité humaine soit la valeur centrale de nos existences. Redonnons la vraie valeur aux choses. Je regardais une émission comme ça sur les minimalistes. Je ne sais pas si vous connaissez les minimalistes. Les gens, ils disent, tu as besoin de 30 vêtements toute l'année. Je vis avec 30 vêtements toute l'année. Ou je vis dans une tiny house, des mini-maisons. Il y a une pièce. Ou des voilà, minimalistes. Et une dame qui étudiait tout ça disait, en fait, on n'est pas trop matérialiste. On n'est juste pas assez matérialiste. C'est-à-dire qu'on accorde aux choses une valeur sentimentale, sociale, plus que réelle. Pourquoi est-ce qu'un t-shirt avec marqué Nike vaut plus qu'un t-shirt de chez Lidl ? Il y a peut-être une question de qualité de fibre. Il y a surtout la valeur attachée au symbole. Surtout ça qu'on paye. Et acheter de l'argent pour un symbole, ça n'est pas être matérialiste au sens fort du terme. Pas du tout. Donc, quelque part, nous ne sommes pas assez pragmatiques. Nous ne redonnons pas assez aux choses leur vraie valeur. Et si vous cherchez en vous, considérez ce qui vous a sauvé, c'est une rencontre personnelle avec Dieu qui devient humain pour nous rencontrer, qui fait un long chemin. Et ça, si on réfléchit, mais comment est-ce que je peux l'offrir à mon tour ? Il est évident que cela passera par des rencontres personnelles. Je trouve que ça fait très bien, on ne s'est pas du tout concerté, ça fait très bien écho avec la première partie du culte de Philippe. Donc je veux relire le psaume 133. Voici. C'est pas la nouvelle Bible. Dommage. La nouvelle Bible en français courant. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe de Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Celle-là, car c'est là, c'est à cet endroit-là que l'Éternel donne la bénédiction pour la vie, pardon, la vie pour l'éternité. Où ça ? C'est où ? Ah oui, c'est quand les frères et sœurs habitent ensemble. C'est ici. Ah, c'est peut-être pour ça que Jésus il dit dans Jean combien ? Jean 15. Voici mon commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ceci que je vous commande. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Frères et sœurs, je vous souhaite de bonnes rencontres et de bonnes visites au sein de l'Église et autour, et qu'en tous ces moments-là, le Seigneur vous rappelle par son esprit que le Christ est là. Tout peut arriver. Amen.